promessi, tutti lì erano una compagnia di immigrati che stavano in place dans les paysages français, qui essayaient à se faire parfois vaille-que-vaille à se rendre visible. Moi, ma proposition s'intitule, comme il vient de le dire, l'invisibilité et la discrétion de l'islam confrérique subsaharien dans l'espace public français, le cas du hamalisme et du yacoubisme. Cette proposition est consécutive d'abord à mes recherches. Dans le cadre de ce projet, j'ai essayé d'approcher plusieurs fois les hamalistes, les yaroubistes et tant d'autres musulmans qui se réclament de l'islam soufi. J'ai particulièrement, et aussi, cette proposition est consécutive aussi à mes recherches antérieures et aussi à mes lectures, parce que je me suis rendu compte que par rapport à des chercheurs comme Nyokan Adama, Aline Traoré et tant d'autres personnes qui ont essayé d'avoir des informations sur ces confréries, ces deux confréries notamment, qu'il y a eu des problèmes, les gens préfèrent, sont très méfiants par rapport à tout ce qui est extérieur, à tout ce qui est officiel. Donc je me suis dit, il doit y avoir des raisons de cette réticence. D'où cette proposition et cette intitulé qui centralise, en fait, qui opuise de l'invisibilité et de la discrétion dans un certain nombre de confréries. J'ai remarqué aussi dans le cadre de retranscription que j'ai eu à faire, que même dans le cadre de mourir, il y en a qui sont d'accord à se rendre visible et d'autres non. Voilà. Bon, moi, en tout cas, concernant précisément les hamalismes et les yaroubismes auxquels j'ai consacré ma réflexion, et je me suis rendu compte qu'en creusant un peu, que dans l'histoire, il y a au moins trois points qui expliquent cette réticence, c'est-à-dire à se rendre visible. Bon, d'abord, avant d'énumérer ces trois points et de les expliquer, j'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que le hamalisme. Cela me permettra aussi de comprendre par la suite mon raisonnement. Le hamalisme porte le nom de Cheikh Hamahullah. Hamahullah, qui était originaire de la Mauritanie, du Tichit mauritanien, et aussi du côté de sa maman, de l'espace qui correspond aujourd'hui au Mali. Et puis quant à le yaroubisme aussi, c'est aussi une confrérie qui porte le prénom de son père fondateur, Yacouba Silla, qui est aussi originaire de Nioro au Mali. Et la différence, ces deux confréries se réclament de la Tijaniya. Ousmane n'est pas là, je ne le vois pas, mais j'aborde les confrères ici, mais au prisme de l'invisibilité. Parce qu'hier, on nous reprochait d'avoir beaucoup parlé des confréries, mais moi, je vais juste montrer ici par ces deux exemples que ces confréries ont certains désintérêts par rapport à tout ce qui est publicité, à tout ce qui est visibilité. Voilà, c'est bon. Le premier élément qui explique ça, c'est dans la spiritualité, c'est par rapport même au comportement de Cheikh Hamahullah, parce que le hamalisme a été fondé au début du XXe siècle et le yacoubisme un peu plus tard, c'est dans les années 30, c'est-à-dire 1929-1930 à Kaïdi. Cheikh Hamahullah, qui est le fondateur de cette confrérie hamaliste, sa philosophie, c'est que c'est le retour à la Tijaniya dite orthodoxe, c'est-à-dire au retour à la Tijaniya 11 grains, contrairement au Tijane Nyasen, de Tiwawon, que ce soit Tijaniya Oumarian, toutes les autres confrérie qui se réclame de la Tijaniya, qu'elle soit Nyasen, qu'elle soit Omarienne, qu'elle soit de Madina Bounas, elles font toutes la Tijaniya, elles s'attachent tous l'importance aux 12 grains, alors que Cheikh Hamahullah est venu comme un réformateur dans la confrérie, ce qui a d'ailleurs pas mal lui a pas mal posé des problèmes par la suite. quant à sa spiritualité, Cheikh Amahoullah, parce que comme on parle ici de rapport aux autorités, de rapport au pouvoir, Cheikh Amahoullah était quelqu'un qui ne voulait pas avoir de rapport avec l'administration coloniale, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et pour lui, le soufisme, c'est à tasawouf, ça veut dire à zohd, c'est-à-dire c'est le renoncement à tout. Il écrivait d'ailleurs en 1940 dans une correspondance dans les articles, je renonce à tout n'ayant en vue que Dieu et son prophète. Du coup, l'administration coloniale voyait ça comme un mépris de sa part, alors que lui, il pense qu'un musulman complet ne doit pas avoir des relations très poussées avec des non-musulmans. Donc, quelque part, comme Cheikh Amahoullah était un exemple, inconsciemment ou consciemment, ses adeptes ont transmis ça de génération en génération pour avoir le peu de relations avec, un peu de relations avec tout ce qui est extérieur. Du coup, quand on regarde aujourd'hui, quand j'ai interrogé aussi des adeptes hamalistes, pourquoi vous, par exemple, aujourd'hui en France, les gens ont tendance à vouloir avoir leur place aussi dans les paysages français, vous essayez toujours de vous mettre en marge. Ils disent aussi, concernant nos pratiques religieuses, elles ne sont, parce que quand on demande une mosquée, les hamalistes souvent prient dans des aouias, ça c'est une autre demande à part. Et puis ensuite, ils se fondent sur un certain nombre de versets coraniques. Je vais éviter de lire les versets en arabe. J'ai trouvé la traduction en français. Au moins, j'ai pris deux versets qu'on m'a cités en disant que Cheikh Amahoullah s'appuyait sur ces versets pour ne pas avoir de contacts poussés. Les seuls contacts qu'il avait avec l'administration coloniale, c'était de payer ses impôts ou partir voir en cas de convocation. C'est tout ce qu'il avait comme relation avec l'administration coloniale avant son incarcération. Donc, ses fidèles m'ont cité ces deux versets en disant. Il y a un verset du Coran qui dit « Aux croyants, ne formez des liaisons intimes qu'entre vous. Les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre. Ils désirent votre perte. Leur haine perce dans leurs paroles, mais ce que leur cœur recèle est pire encore. Nous vous en avons déjà fait voir des preuves évidentes si vous savez comprendre. » Un autre verset, vous verrez, vous ne verrez aucun de ceux qui croient en Dieu et au jour du jugement dernier, aimer l'infidèle qui est rebelle à Dieu et au prophète, fils en père, en fils, en frère, en allié. En fait, ils disent que Cheikh Amahoullah, en se fondant sur ces versets coraniques, ne voulait pas avoir de contact avec l'infidèle, parce que les colonisateurs étaient considérés comme koufars, c'est-à-dire des infidèles. Donc, du coup, On va voir plus tard aussi les mêmes comportements à peu près dans la philosophie de Tcharno Bokar, qui s'est réfugié aussi dans la spiritualité, qui ne voulait pas avoir un contact extérieur, surtout à partir de 1937, quand il sera affilié au hamalisme. On voit par là un certain renoncement à tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples aussi de hamalistes, ou des fidèles hamalistes, des muqaddam, qui se sont retranchés dans cette sorte de philosophie, pas par confrontation, mais par piété et par protection, parce que c'était la période coloniale où le hamalisme quand même était très exposé. Donc du coup, dans les archives coloniales, on trouve pas mal d'exemples, pas mal de notes disant que le hamalisme ont un certain mépris vis-à-vis de l'homme colonial, vis-à-vis des autorités coloniales, ne voulaient pas leur parler, ne voulaient pas négocier. En réalité, quand on analyse les comportements de Cheikh Amahoullah et de ses filles, c'était à peu près de se prémunir d'être en contact avec l'infidèle. Et puis il y a aussi le deuxième élément, c'est la mémoire traumatique. C'est-à-dire colonial. Les conditions de naissance et de diffusion du hamalisme ont été très violentes, qui ont exposé le hamalisme. Le hamalisme a été considéré comme une confrérie subversive qui trouble l'ordre public. Et puis il y a eu ensuite des emprisonnements, des résidences surveillées, des persécutions, des mesures d'éloignement, des massacres. ont été l'eau quotidienne des Hamadis. On va voir par exemple, concernant d'abord la personne de Cheikh Ammar Oulla, d'abord, Cheikh Ammar Oulla a été l'objet de plusieurs internements, de plusieurs résidences civiles. En 1925, j'ai essayé de faire vite, en 1925, il a été arrêté et déporté en Mauritanie. En 1930, il a été déporté en Côte d'Ivoire, à Jopé. En 1940 aussi, il a été déporté en Algérie pendant 2 ans. En 1942, il fut déporté aussi en France, où il mourut en janvier 1943. Moi, je parle de sa mort, mais quand il s'agit des Hamadistes qui sont convaincus, pour eux, il n'est pas mort, il reviendra un jour. Mais bon, les archives coloniales indiquent qu'il est décédé le 16 janvier 1943, suite d'une pneumonie, parce qu'il n'a pas supporté, les conditions d'internement. Et puis aussi, les persécutions vis-à-vis des Hamadistes ont vraiment commencé surtout à partir de 1930 avec la naissance du yaroubisme. Parce que Yacouba Silla, qui était aussi originaire de Guénois, qui s'est installé par la suite, qui était originaire de Nioro, qui s'est ensuite installé en Côte d'Ivoire à la suite de son emprisonnement, était quelqu'un de très virulent, qui ne voyait que le Hamadisme, et puis du coup ça causait pas mal de problèmes aux Hamadistes. On voit par exemple à Kaïdi, il y a eu un conflit là-bas le 15 février 1930 où il y a eu tout de suite 22 personnes qui ont été tuées, 33 blessées et 216 personnes arrêtées et puis emprisonnées, et il y en a qui sont, en fait on les a dispersées un peu partout dans toute la zone ouest africaine, parfois jusqu'à ailleurs. Et puis du coup, on a vu par exemple les maisons Hamadis sont devenues désertes. Les hommes, par exemple, il y a une analyse sociologique. Quand on regarde par exemple, moi chez moi à Kaïdi, très souvent les hommes, quand on prononce leur prénom, tout de suite c'est le prénom de la maman qui vient. Parce que très souvent ils n'ont pas grandi avec leur papa parce qu'il était emprisonné, décédé ou revenu malade. Donc tout ça a fait que les Hamadis, les gens ont grandi avec ce traumatisme. Donc ils essayent d'être très méfiants vis-à-vis de tout ce qui est contact, etc., vis-à-vis de tout ce qui est pouvoir. L'autre élément, le troisième élément qui semble expliquer ça, c'est aussi l'adversité locale ou rivalité confrérie. Parce qu'on a vu qu'il y avait, à l'époque coloniale, il y avait pas mal de marabouts qui étaient devenus des auxiliaires de l'administration coloniale, par exemple, et puis qui ont écrit aussi, par exemple, hier j'ai discuté avec Seydi, El Hadj Maliksi a répondu aux Hamadis qui disait que la Tijaniya, la vraie Tijaniya, l'orthodoxie Tijan, c'est vraiment les 11 grains, il y a eu des réponses. Mais il y a eu d'autres marabouts qui ont profité de leur aura et de leur prestige auprès des autorités coloniales, et puis qui ont essayé de nuire au Hamadisme et au Yacoubisme. C'est le cas de Tcherno Seydou Mourouta, où c'est clairement écrit dans les archives coloniales à plusieurs reprises où il essayait de mettre à mal le Hamadisme. On va par exemple lire une citation qui est de Sylviane Garcia qui disait sa soumission à l'administration coloniale recouvrait également un objectif religieux, à savoir consolider et étendre la voie par la voie de la tariqa d'obéissance oumarienne. Aussi oriente-t-il à plusieurs reprises la politique musulmane française dans le sens d'intérêts personnels, familiaux ou confrériques. Sur ce point, l'acharnement des autorités coloniales à l'encontre de Cheikh Ammar Oulla, dont l'action ébranlait la toute-puissance de la famille Tal, peut paraître révélatrice. La loi du silence qui entoure les rôles joués par Seydou Mourouta dans la répression de la confrérie Hamadis rend difficile les investigations du chercheur. J'ai discuté une fois avec Alioune Traoré qui m'a dit, au début de ses recherches sur le Hamadisme, il a été, parce qu'en ce temps, c'était dans les années 70, quand il faisait sa thèse du troisième cycle à l'Université de Dakar, il voulait avoir l'avis de Seydou Mourouta sur le Hamadisme. Il a été le voir en personne, et puis pour avoir son avis sur le Hamadisme. En fait, il a cherché de chez lui. Ce qui prouve aussi que tout ce qui est écrit aussi dans les archives coloniales, qu'il y a eu aussi des marabouts qui avaient une certaine affection aussi auprès des autorités coloniales, qui en ont profité pour, mettre à mal les hamalistes. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, les hamalistes, de nos jours, ont intégré consciemment ou inconsciemment cette méfiance vis-à-vis des autorités. C'est pourquoi aujourd'hui encore en France, franchement, il y a un certain désintérêt de la part des yaroubistes, des hamalistes, de se rendre visible. Dans le cadre aussi de mes enquêtes, ce sont plusieurs fois dans mes recherches, ils disent nous on veut faire notre religion à part, l'entre-soi, on préfère faire nos rituels à part sans déranger personne. Mais en réalité, je pense qu'il y a ces trois éléments historiques peuvent nous aider à comprendre pourquoi de cette méfiance. Je voulais ajouter deux éléments aussi rapidement. Par rapport, en fait, le contexte français d'aujourd'hui n'est pas aussi. Quand on regarde tout ce qui se passe, les amalgames qui ont lieu dans le contexte français par rapport aux musulmans qui assimilent aux terroristes, ça n'est pas aussi. Ces gens-là qui ont connu déjà un traumatisme par le passé, à se rendre visible. Et la dernière chose, le dernier élément, c'est que les confrères, les soufis, sont aujourd'hui combattus par ce qu'on peut appeler l'islamo-wahhabo-salafisme. Qui aujourd'hui qui sont très critiques vis-à-vis de tout ce qui est confrérie. Je pense aussi, ça aussi, parce que quand on regarde aussi bien au Sénégal, où quand même les confréries ont une certaine visibilité, on voit même qu'au Sénégal, quand même, le hamalisme est pratiquement absent, alors que quand on regarde, on voit à la Jalia, par exemple, de Malikunda, il y a des hamalistes qui sont convaincus, mais qui sont hors jeu, parce que ça ne les intéresse pas de s'exprimer.
Okay, voilà. Okay. On peut continuer.